Il est important, en effet, de souligner que nos cœurs ne sont pas différents de ceux des hommes qui se tenaient là en accusateurs. Il est bon pour nous de faire un tour en nous-mêmes pour mieux apprécier ce que le Seigneur a opéré et le déploiement d'amour et de grâce qui est manifesté là. Il est utile de regarder aussi cette parole du verset 34 de Luc 23 en relation avec le début du psaume 109. Il y a alors une expression dans le début du psaume 109 qui prend un accent particulier justement sur cette demande, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est la fin du verset 4, mais moi, je me suis adonné à la prière. Il y a quelque chose de particulièrement intense dans le verset 34, quand, avec le début du psaume 109, nous voyons l'amour qui fait face à tout, qui domine tout, malgré une opposition manifeste qui va jusqu'à la haine et qui dévoile tout ce qui était dans l'homme que l'ennemi produit et qui a sa manifestation au moment le plus difficile. Quand le Seigneur est là dans un moment crucial, les siens se tiennent à distance et les responsables du peuple, à l'égard desquels aussi il a cette parole unique, sont là, exprimant publiquement et à la face du ciel la véritable haine qui est dans leur cœur. Celui qui est là véritablement pour l'amour et à cause de la manifestation de cet amour, nous voyons un déploiement de haine. Est-ce que nous mesurons cela? L'amour divin qui se manifeste d'une manière unique et l'homme, dans sa réalité naturelle, devant ce déploiement d'amour pour lui, devant Dieu, eh bien, trouve dans son cœur un développement et une manifestation de haine. Est-ce que nous ne sentons pas ici une intensité de grâce et d'amour particulière? Fallait-il pas le cœur de Dieu, connaissant ces choses, pour produire ce que nous trouvons là? Et puis, voulons souligner autre chose encore au verset 34 de Luc 23. C'est qu'il y a ici à la fois dépendance, soumission et autorité. Père, pardonne-leur. Il y a celui qui présente ce qui convient, celui qui rappelle avec la fin du verset ce que nous avons déjà exprimé, avec la fin de la phrase, ils ne savent ce qu'ils font. Il y a tout ce qui le caractérise et qui donne en quelque sorte à Dieu le droit, au Père, le droit de pardonner, le chemin libre pour pardonner. Mais le Seigneur s'en remet à son Père. Il y a ici cette soumission, cette dépendance qui caractérise ici le Fils. Et puis, en même temps, nous sentons cette autorité. Parce qu'il y a, avec sa demande, tout ce qui convient, tout ce que lui seul peut opérer et tout ce qu'il opère en amour, complètement, sans la moindre réserve. Et nous sentons à la fois, dans cette expression de ce que Dieu veut nous communiquer, un chemin de soumission, d'obéissance, de réalisation entière de tout ce que le cœur du Père peut désirer, de tout ce qui est dû à Dieu, et en même temps, cette marque d'autorité qui dit oui, le chemin est là. Le pardon est possible, tout est fait pour cela. Il y a, nous le résumons encore une fois, à la fois soumission, dépendance et autorité. Et nous voyons ici l'activité divine.
Au cours de son ministère, le Seigneur a exhorté ses disciples et nous avec eux au pardon. À plusieurs reprises, nous le voyons, dès le sermon sur la montagne en particulier. Pardonnez aux hommes leurs fautes, pardonnez chacun à son frère. Le Seigneur nous y exhorte parce que ce n'est pas dans notre nature. Ce n'est pas un sentiment qui surgit inopinément de nos cœurs. Quand il y a offense, c'est la vexation en premier lieu qui surgit. Et il nous invite au pardon. Mais il ne nous a pas seulement invité au pardon, il ne nous a pas seulement exhorté, et ici, il nous le montre. Il nous le montre d'une manière sublime, il est lui-même le parfait exemple du pardon. Et comme cela a été dit au début de cette heure, les trois premières paroles qui précèdent donc cette quatrième nous sont un exemple, et ce premier, l'exemple pour le pardon. On en a besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans des périodes un peu troublées, où il y a des tensions, on a tellement facilité de rechercher, non pas l'argument qui nous permet de pardonner, mais bien au contraire de rechercher l'argument qui nous permettra de condamner. Que le Seigneur nous soit vraiment un exemple et que cette parole première prononcée sur la croix touche nos cœurs et nos consciences. Recherchons chez nos frères, même lorsqu'il y a une parole maladroite, lorsqu'il y a peut-être une offense qu'on discerne, recherchons quand même l'argument nécessaire et il se trouvera toujours, s'il n'est pas dans le cœur, dans notre cœur, on le trouvera en tout cas dans le cœur de Dieu, l'argument pour pardonner.
Le Seigneur demande, intercède auprès de son Père. S'il demande le pardon à son Père, c'est que lui-même a pardonné déjà. Et nous, il me semble que, enfin, expérimentalement aussi, quand nous avons vraiment pardonné à quelqu'un, nous pouvons demander au Seigneur de lui pardonner. Et faites-en l'expérience, pardonnez au fond de votre cœur, à votre frère, et demandez pardon, demandez au Seigneur ou au Père de lui pardonner. Je crois que ce service d'intercession est important dans notre vie pour que le pardon vis-à-vis de notre frère soit une réalité et non pas seulement une formule ou des mots.
C'est important dans nos relations réciproques et c'est important pour nous-mêmes intérieurement aussi, si j'ose dire. En Hébreux chapitre 12, le verset 3. Hébreux 12, 3. Considérez celui qui a enduré une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là étant découragés dans vos âmes. Quelle contradiction que celle que Christ connaissait à cette heure-là. Si on regarde la contradiction, on sera découragé, on sera inutile, on sera incapable d'adorer. Par contre, si comme Christ à cette heure, on pardonne et on prie, on trouvera là de la part de Dieu des ressources pour pouvoir continuer en regardant au Seigneur et à manifester de la grâce, comme notre modèle en a manifesté d'une manière extraordinaire à ce moment-là.
Pardonner à notre frère, ou à celui qui nous a offensés.
Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, et au verset 13, peut nous exhorter à nous pardonner les uns aux autres. Et il peut dire, Donc, dans ce verset 13, vous pardonnant les uns aux autres si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et le verset qui précède, donc, nous parle du support. Celui qui suit nous parle de l'amour. C'est bien ce qui animait le cœur du Seigneur à ce moment-là. Souvent, nous voudrions trouver quelque chose comme une perfection dans nos frères, dans nos sœurs, lorsqu'il y a des difficultés. Ce n'est pas le chemin que l'Écriture nous montre. Et il est frappant de voir que dans ce chapitre 23, dans ce paragraphe donc, qui va du verset 33, et on peut y inclure le verset 39, nulle part comme ailleurs, il nous est décrit ce qu'est le péché aux yeux de Dieu. Relevons quelques expressions. Ils le crucifièrent là. C'est la cruauté. Psaume 22, verset 16. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Fin du verset 34. Ils tirèrent au sort ses vêtements. C'est l'avarice. Psaume 22, verset 18. Ils partagent entre eux mes vêtements. Sur ma robe, ils jettent le sort. Un petit peu plus loin, dans ce verset 35 du chapitre 23, ils se raillaient de lui. C'est le mépris. Psaume 22, verset 6. Mais moi, je suis un ver et non point un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Un petit peu plus loin encore, verset 36, il se moque de lui, la moquerie. Verset 7 du psaume 22, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent leur tête. Verset 36, celui-ci est le roi des Juifs. C'est l'opprobre que nous avons déjà vu dans le verset 6. L'opprobre des hommes. Et puis, donc, dans le verset 39, il l'injurie. Les malfaiteurs qui sont là, nous le verrons, l'un s'est repenti, l'autre est resté dans ses pensées. C'est la cruauté. C'est la violence, plutôt. Et nous trouvons cela, donc, dans le verset 13 de ce Psaume 22, que nous avons déjà lu tout à l'heure, ils ouvrent leur gueule contre moi, contre un lion déchirant et rugissant. Et la dernière forme de la violence, nous l'avons trouvée dans l'évangile selon Jean, donc lorsque la lance du soldat romain a percé le côté alors que Jésus était déjà mort. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quelqu'un a l'exemple pour nous. Si nous regardons à l'état de nos frères, l'état avec les yeux des hommes quant à son péché, eh bien, nous n'avancerons pas. Regardons ce que le Seigneur Jésus a fait de lui, le frère pour lequel Christ est mort.
À ce moment de la croix, le Seigneur souffrait de la part des hommes de façon tout à fait injuste. Or, dans les psaumes qui nous parlent des souffrances de Christ, à l'exception du psaume 22, un appel à la vengeance a sa place. Et Dieu lui-même vengera les souffrances injustes que son Fils a supportées de la part des hommes. Et rien n'échappera. Le Seigneur même, à ce moment-là, le moment du jugement, dira « Amenez-moi ces esclaves-là et mettez-les à mort devant moi. » Luc 12. Alors, quelle différence avec la parole de la croix? Pourquoi? Pour nous. Parce que la croix, c'est l'aube du jour de la grâce. Or, aujourd'hui, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors voilà, l'esprit de pardon, c'est le premier fruit pratique de la grâce de Christ, la grâce dont nous sommes les objets. 1 Pierre 2, le verset 23, le modèle parfait, Christ est bien notre modèle. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Ensuite, c'est le sacrifice pour le péché.
D'ailleurs, dans le psaume 22, il n'y a pas de réclamation à l'égard du jugement. Tout est grâce. Je voudrais faire remarquer ce qu'a été un témoin plein de l'Esprit Saint, qui a été un imitateur de Christ dans une circonstance à peu près équivalente en acte 7. Il s'agit d'Étienne, au moment où il est lapidé. Au verset 60, au moment où il a pu dire « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Pour faire la distinction entre l'expression qu'il emploie, « ne leur impute pas », et l'expression du Seigneur « Père, pardonne ». Le fait de demander « ne leur impute pas » était à sa place dans le cœur d'Étienne, de manière à ce que le péché ne soit pas lié sur eux. Nous voyons avec quelle distinction il s'exprime, de la même manière quand il dit aussi « reçois mon esprit ». Il y a encore un autre serviteur qui a employé une expression à peu près équivalente, c'est en 2 Timothée, Paul dit « tous m'ont abandonné ». Que cela ne leur soit pas imputé.
Il y a encore quelque chose à souligner dans l'exemple d'Étienne pour une instruction pratique. C'est que Étienne est débarrassé de lui-même, pour ainsi dire, il ne regarde pas en lui-même, il ne regarde pas non plus aux autres, mais il a les yeux attachés sur le ciel et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. De sorte que ce qui compte alors pour Étienne, c'est ce qui concerne la satisfaction et la gloire du Seigneur lui-même. Comme il regarde vers le ciel et qu'il voit le Seigneur, il mesure en quelque sorte toute la portée, toute la valeur et toute la gloire qui est liée à son œuvre et à sa personne. Et alors, ses propres sentiments disparaissent, il n'a plus aucun droit en lui-même. Ce qui lui revient, lui, c'est de s'en remettre à celui qui a tous les droits. Et le fait de regarder, de voir le Seigneur, le conduit tout simplement à pardonner, c'est ce qui a été exprimé tout à l'heure, d'abord en lui-même. Et alors, il peut s'adresser au Seigneur et lui dire « ne leur impute point ce péché ». Le fait de regarder vers le Seigneur, de s'arrêter sur lui, nous débarrasse d'un droit personnel d'appréciation, de jugement. Et alors, le pardon trouve naturellement sa place devant la réalisation de celui qui vient du Seigneur. Il faut reconnaître que bien souvent, nous nous approprions un certain droit de juger ou d'apprécier en nous élevant au-dessus de notre niveau. Et quand on regarde le Seigneur, on s'efface simplement dans une vraie confiance en lui. Alors on trouve le chemin d'un vrai, total pardon personnel, et puis on peut, dans l'ordre qui a été évoqué déjà tout à l'heure, s'adresser au Seigneur, et Étienne, là, est un exemple pour nous.
Tout à l'heure, nous avons lu dans Colossiens 3, « Comme aussi le Christ, vous pardonnant l'un l'autre, comme aussi le Christ vous a pardonné. » Et juste avant, il dit « Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, donc il y a un problème, un sujet de plainte. Et tout à l'heure aussi, nous avons vu comment les hommes ont agi vis-à-vis du Seigneur. Nous avons lu dans le psaume 22 et nous avons regardé le long du chapitre 23 de Luc combien de sujets de plainte de la part du Seigneur. Combien de sujets où il aurait pu dire, mais quel opprobre, tous ces cris, toutes ces choses-là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous, parfois, on a un sujet de plainte, un problème. Et on regarde ce sujet-là, et on ne regarde pas au Seigneur. Comme Christ vous a pardonné. Est-ce que nous avons bien le sentiment du pardon du Seigneur pour nous-mêmes? Si nous avons réalisé ce pardon du Seigneur pour nous-mêmes, peut-être qu'alors nous comprendrons ce que c'est que de pardonner quelqu'un d'autre. Quand nous rappelons quant à la parabole que le Seigneur donne dans Matthieu 18 de l'esclave, cet esclave qui devait une somme épouvantable, incalculable à son maître et qui est pardonné, le maître lui remet la somme. Bien sûr, l'autre esclave lui devait bien quelque chose, un sujet de plainte, et il refuse de pardonner. Mais l'esclave qui refuse de pardonner, en fait, n'avait pas mesuré le pardon dont il avait été l'objet. Il a accepté ce que le maître lui a donné. On ne le voit pas même dire merci. Et ensuite, il s'adresse à son co-esclave en refusant de lui remettre sa dette. Il y avait bien un sujet de plainte. Mais que le Seigneur nous aide alors, quand nous avons tel ou tel problème avec tel ou tel, et quand on vit ensemble, cela arrive, bien sûr. Mais d'abord de regarder au Seigneur Jésus, se souvenant de ce qu'il a, comment il nous a pardonné et combien il nous a pardonné. Comme tout à l'heure notre frère nous l'a dit, bien prier pour notre frère. C'est difficile parfois de pardonner, ça revient toujours. Eh bien, si nous nous arrêtons pour prier pour notre frère, déjà, nous verrons les choses un peu différemment. Priez aussi pour que Dieu pardonne, comme on l'a vu. Et cela va nous aider pour faire ce pas de vraiment pardonner, comme Christ aussi nous a pardonné.
Nous avons parlé de l'amour tout à l'heure, du Seigneur. Et en parlant de cet amour, j'aimerais lire un passage qui parle de nous. Cet amour que nous-mêmes, nous devrions avoir. Et qui, quand on voit ce que le Seigneur Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », nous montre ce que, en quelque sorte, Dieu peut presque attendre de nous, dans notre vie. Dans 1 Corinthiens 13, quand nous lisons au verset 3, « Je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me profite de rien. » C'est en rapport avec notre vie d'assemblée, les uns avec les autres. Et quand on lit à la fin, au verset 6, « L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. » Et dans le mot « supporte », on peut dire « couvre tout ». Cela doit nous parler à nous-mêmes. Cela donne une autre dimension. Puisque nous avons parlé de l'amour du Seigneur, cela doit donner une autre dimension à ce qu'est l'amour pour nous. Tout à l'heure, on a dit l'amour, ce n'est pas du sentimentalisme, ce n'est pas un sentiment. Mais là, on voit bien que l'amour est le fruit de l'esprit. Sans l'esprit, il ne peut pas y avoir cet amour que le Seigneur nous a montré. Et cela doit nous marquer dans notre vie. Faire comprendre que l'amour dont il est parlé dans 1 Corinthiens 13 est quelque chose de vrai et qu'il a été réalisé dans le Seigneur Jésus. Et aussi, j'aimerais lire dans Matthieu 5 combien le Seigneur a réalisé ce qu'il a enseigné sur les sermons sur la montagne. Dans Matthieu 5, au verset 43-44, on voit à la fois le passage entre l'ancienne économie, si on peut dire, et la nouvelle économie. Il avait été dire, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur Jésus l'a parfaitement accompli. Et c'est comme le dit le Fils. C'est également les mêmes sentiments que le Père. Que cela nous fortifie, nous aide, parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous faire réaliser ces choses dans notre vie, de tous les jours.
Le brigand sur la croix, a entendu cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et cela a provoqué un changement chez lui. Il était avec son co-crucifié, en train d'injurier celui qui était au milieu d'eux, et tout à coup, il s'est rendu compte que celui qui était là, à côté de lui, en voyant sur la tête de celui qui était là une couronne d'épines qui faisait que le front du Seigneur, de son front coulait déjà du sang. Il a déjà vu dans cet homme, non pas un homme comme les autres, mais comme on le voit au verset 40 de ce chapitre 23 de Luc, il peut dire, verset 42, « Seigneur, ne crains-tu pas, toi, tu ne crains pas Dieu. » Il a vu Dieu dans cet homme crucifié avec lui. Quel moment pour le Seigneur Jésus d'entendre au milieu de cette haine quelqu'un le reconnaître. « Seigneur, souviens-toi de moi. » Déjà, nous remarquons que ce qui caractérise cet homme, c'est ce brigand, c'est la crainte de Dieu. Et tu ne crains pas Dieu, toi. Et c'est ça le point de départ. Pour se tourner vers Dieu, craindre Dieu, se rendre compte de ce que l'on est devant Dieu. Et cela va amener la confession. Car tu es sous le même jugement, et nous y sommes justement. Oui, nous sommes des mauvais. Nous sommes des perdus. Nous méritons cela. Et voilà la confession qui est faite. Et alors, il peut déclarer, celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Quelle découverte, quel discernement, tout à coup, de la part de ce crucifié. Il n'a rien fait qui ne se dût faire. Il est juste, lui. Alors que tous se raillent de lui, tous montrent leur méchanceté contre le Seigneur qui est là, c'est une parole de pardon que je viens d'entendre. Alors, c'est la conversion pour cet homme. C'est lui qui peut proclamer sur la croix que c'est le juste qui est cloué pour des injustes. Et finalement, on pourrait se dire, où sont tous ces lépreux, tous ces boiteux, tous ceux qui ont mangé du pain alors qu'il n'y avait rien à manger? Où ils sont ceux-là pour dire que c'est le juste qui est là, cloué d'une manière injuste? Personne n'a rien dit. Mais là, sur la croix, le Seigneur Jésus a entendu, à côté de lui, le brigand dire, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. C'est le roi qui est à côté de lui. Alors que tout à l'heure, il le prenait pour un imposteur, il a dit, je suis le roi des Juifs. Non, c'est vraiment le roi des Juifs qui est là, le Seigneur. Et il l'a reconnu.
Il faut souligner que les deux évangiles de Matthieu et de Marc nous disent qu'au début des heures de la croix, les deux brigands, pas un seul, les deux, ont crucifié le Seigneur de la même manière, insulté. Luc, c'est Matthieu 27, juste le passage avant celui que notre frère a lu au début de la réunion. Luc, Matthieu 27, 44, les brigands aussi, au pluriel, qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Le travail de la grâce est donc opéré de cet homme en quelques moments seulement, et pourtant, quel extraordinaire et profond travail. La première chose, c'est la crainte de Dieu. La deuxième, c'est la confession de sa propre faute, de son propre péché. L'acceptation du juste jugement des hommes comme conséquence de ce qu'il avait fait. Et puis, il ne pense pas à ses propres souffrances, et son cœur, par la foi, se tourne vers Christ. C'est, frères et sœurs, la seule personne qui, à ce moment des heures de la croix, ait eu le courage de parler. Les femmes n'ont rien dit, ce n'est pas leur place. Les disciples, où étaient-ils? Ils étaient tous partis. Jean seul était revenu, et nous ne le voyons pas parler. Le Seigneur lui parlera. Mais là, cet homme-là apporte un témoignage que l'homme n'aurait guère considéré comme crédible. Que connaissait-il de Christ? Il ne l'avait jamais vu, probablement. Mais il était enseigné de Dieu. Pourquoi ? Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et le commencement de la connaissance. Ce ne sont pas les connaissances livresques qui vont changer l'état de l'âme. C'est connaître Christ, le rencontrer sur le chemin de la vie. Voilà le plan merveilleux de la grâce de Dieu et du pardon qui est présenté en exemple dans ce seul homme qui allait, avant que la journée s'achève, porter de la part des hommes le jugement de sa propre condamnation, de sa propre peine, de sa propre faute. Mais maintenant, Christ aussi allait porter de la part de Dieu, en partageant extérieurement pour les hommes le jugement des hommes, il allait porter de la part de Dieu le jugement de ce brigand repentant pour qu'il soit rendu propre dans ce moment même pour entrer dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire le jardin de délices.
Il y a là quelque chose de particulier. Nous avons souligné, Matthieu et Marc effectivement, c'est à la fin du verset 32 de Marc 15, que les deux brigands, d'abord, insultent le Seigneur. Que se passe-t-il alors dans ce brigand qui rend ce témoignage et qui reconnaît la réalité? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il a entendu le Seigneur s'exprimer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La seconde, c'est qu'il a vu ce qui était écrit au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'histoire des Juifs, leur relation officielle avec Dieu était connue. Alors il y a deux choses pour tout le monde ici. Certains en ont déjà joui et d'autres ont peut-être besoin de le réaliser. Première chose, est-ce que nous avons entendu le Seigneur parler? Est-ce que nous l'avons écouté? Est-ce que nous avons prêté une véritable attention pour essayer de saisir ce qu'il voulait communiquer? La deuxième chose, est-ce que nous avons réalisé qui il est, d'où il vient, en relation avec ce qui est écrit, ce qui est officiellement est venu par le peuple, autrement dit, le témoignage que Dieu rend le concernant vis-à-vis du chemin par lequel il devait venir? Si oui, sommes-nous disposés à emprunter le chemin qu'a emprunté le brigand lui-même pour reconnaître au Seigneur ce qu'il concerne, ses droits, son pouvoir, pour lui faire confiance et pour nous remettre à lui? Entendre le Seigneur, reconnaître ce qu'il est, le lui dire, nous remettre à lui et lui faire pleinement confiance. Voilà un chemin en apparence tout simple, mais dans lequel le brigand fait abstraction de lui-même, reconnaît tout ce qu'il concerne, s'accuse directement, puis s'en remet au Seigneur. Voilà un chemin qui mène à la proximité du Seigneur et à sa présence dans la gloire que va connaître dans quelques instants ce brigand repentant.
Dans la première parole, nous avons le pardon. Dans la deuxième, nous avons la bénédiction. La première, c'est le pardon par rapport à notre culpabilité. Et le Seigneur nous parle dans la deuxième parole. Aujourd'hui, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la bénédiction. Dieu aurait pu nous pardonner nos péchés. Ça aurait été beaucoup déjà de ne plus être condamné. Mais Dieu a en vue de nous bénir. Et nous savons, par l'Épître aux Éphésiens, la bénédiction, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction qui découle de la croix s'arrête pas au pardon, mais s'arrête à... mais pas jusqu'à la bénédiction suprême d'être identifié à Christ et un jour être avec lui éternellement pour partager sa gloire. Combien ces deux aspects devraient nous rendre profondément reconnaissants pour l'œuvre de Christ. Et elle nous montre aussi, ces deux aspects nous montrent aussi l'efficacité de l'amour du Christ à la croix.
Qui peut être sauvé? On a ici un des exemples extrêmes, celui qui est appelé un brigand, un malfaiteur, qui n'a rien pu faire pour mériter quoi que ce soit, pour être agréé pour une action qui soit un peu bénéfique, il n'y a rien à son actif. Eh bien, par la foi, en regardant à Jésus, en invoquant sa grâce, il est sauvé. Personne ne peut dire, s'il confesse son état de culpabilité, s'il se ressent trop méchant, personne ne peut dire « je suis trop mauvais pour que Dieu s'occupe de moi ». Le pire a été sauvé en l'instant même de la crucifixion du Seigneur. L'apôtre Paul le dira, et ceci a été lu tout à l'heure dans 1 Timothée 1, qu'il était le premier des pécheurs à cause de sa culpabilité particulière, lui l'homme religieux qui a persécuté l'Assemblée de Dieu. Personne non plus ne peut dire qu'il est assez bon, assez juste, assez honorable pour ne pas avoir besoin du pardon. On a un deuxième, dans ce même chapitre 23 de Luc, on a un deuxième personnage qui est appelé homme de bien et juste, conseiller, et qui ne s'était pas joint à leur action, c'était Joseph d'Arimathée. Lui aussi bénéficie du salut, il en avait déjà bénéficié, il fait partie de ce cortège des sauvés, lui l'homme de bien, mais il a besoin de la même œuvre de Jésus, il a besoin du même pardon. Donc les deux extrêmes, celui qui est honorable dans sa vie ou celui qui est un brigand, les deux extrêmes bénéficient de l'œuvre de Christ. Nul donc ne peut prétendre être trop mauvais ou être assez bon pour ne pas en avoir besoin.
On notera que le Seigneur Jésus n'a pas délivré le brigand de sa mort, de la mort de la croix. Cet homme a été jusqu'au bout dans la condamnation que les hommes lui avaient justement infligée. C'est dans un domaine moral et spirituel que tout a changé. Maintenant, pour le brigand, l'avenir est assuré. L'un va être perdu sans espoir dans les ténèbres de dehors. L'autre, maintenant, est introduit par la pure grâce de Dieu dans le domaine des bénédictions éternelles. Pensons aussi, chers frères, nous avions désiré le faire depuis le début de notre entretien, à Christ lui-même. Cet homme a été placé là par la providence divine pour être la consolation de Christ lui-même. Il élève, on n'oserait pas dire qu'il élève les pensées de Christ, parce que Christ est en toute plénitude et perfection, mais quand même, le brigand parle au Sauveur de ce moment où il allait être introduit dans la gloire. Et je voudrais lire ce que j'avais rappelé dans Sonder les Écritures, une expression de M. Darby dans les études sur la parole qui me paraît être tout à fait remarquable. Le pauvre malfaiteur devient ainsi la joie et la consolation du cœur du Seigneur, prémisse de l'amour qui les avait placés l'un à côté de l'autre. Si le pauvre brigand portait de la part de l'homme le fruit de ses péchés, le Seigneur de gloire emportait le fruit de la part de Dieu, traité lui-même comme un malfaiteur dans la même condamnation. Par une œuvre inconnue à l'homme, sauf à la foi, les péchés de son compagnon étaient loin pour toujours, leur souvenir n'était plus pour lui que celui de la grâce qui les avait ôtés et en avait nettoyé pour toujours son âme, la rendant à l'instant propre pour entrer dans le paradis comme Jésus lui-même. C'est ce que Jésus révèle au brigand en lui donnant une promesse qui dépassait de beaucoup sa demande. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Le paradis, c'est le ciel avec Jésus. Et si l'on a pu dire que c'était, dans le langage de l'Orient, un jardin de délices, c'est pour nous le bonheur ineffable avec Jésus. Et le brigand qui a été sauvé sans délai est entré le jour même au paradis. Et cela est important à rappeler, parce que le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas de délai, pas de purgatoire, pas de stade qui pourrait séparer le croyant qui a cru du moment où il jouira de la gloire. Sinon, bien sûr que nous jouirons de cette gloire en perfection lorsque nos corps sont changés à la venue du Seigneur. Il y a donc dans cette expression, le paradis, quelque chose de profondément encourageant pour nous. Nous trouvons un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 2 de l'Apocalypse, dans la lettre à Éphèse, où il est dit à celui qui vaincra, « Je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est le paradis de Dieu. Ce n'est plus le jardin d'Éden d'autrefois, qui était traduit dans la version des Septante par le mot paradis. Non, c'est le paradis de Dieu. Et c'est remarquable de voir que l'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est Christ lui-même. Et cela nous fait bien entrer dans le fait que le bonheur de ce lieu, de ce ciel, il est lié à la présence du Seigneur. Ce sera bien sûr le cas de ce brigand dès le jour même, lorsque son âme, son esprit pourra jouir ainsi avec Jésus de ce qui est de beaucoup meilleur, comme aussi l'apôtre le dit aux Philippiens au chapitre 1er, lorsqu'il dit: je suis pressé des deux côtés, verset 23, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur.